Bonjour à tous et bienvenue autour de cette grande table. Comment être vivant ensemble après la piste animale? Le philosophe Baptiste Morisot poursuit sa réflexion autour de la nature et du vivant. Il enquête sur la vie et les manières de cohabiter dans un nouvel essai qui paraît chez Actes Sud. Il sera notre invité à retrouver à partir de 12h55. Mais d'abord, la première est franco-tunisienne, la seconde marocaine. Les réalisatrices Manel Labidi et Mariam Touzani, dont les films Un divan à Tunis et Adam sort en salle ce mercredi pour l'un, le suivant pour l'autre, sont nos invités à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr. Toutes deux ont choisi de placer la femme au centre de l'écran pour raconter le changement.
La grande table. Olivia Gesbert.
Deux films portés par deux grandes actrices, Golshifteh Farahani pour Un divan à Tunis et la Belge Loubna Azabal pour Adam. Deux premiers films aussi. Bonjour Manel Labidi.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous et bonjour Mariam Touzani.
Bonjour.
Bonjour. Dans Un divan à Tunis, votre film Manel Labidi, une psychanalyste franco-tunisienne rentre au pays pour y ouvrir un cabinet dans une banlieue de Tunis où Freud n'a pas vraiment ses quartiers. Les quiproquos vont s'accumuler d'abord, puis des liens se tissent et la parole se libère. Extrait.
Baya, vous permettez que je fasse une annonce dans votre salon?
Quel genre d'annonce?
En fait, je suis psychanalyste et je veux ouvrir mon cabinet ici à Zahra. Je voudrais en parler aux clients du salon, si vous me le permettez.
Un cabinet de psychanalyste ou nifitoumi?
Oui.
Et tu crois que ça va marcher?
Oui, les gens ont besoin de parler.
Ah, ça c'est sûr. Surtout nous, les Arabes, on parle beaucoup. Mais quand elles viennent ici, les clientes, elles parlent. Mais au moment de payer, elles ressortent, elles ont un brushing beau comme le tien, ou des mèches, ou tu vois. Ou par exemple, le hammam. Elles viennent, elles parlent, te cassent la tête. Mais elles ressortent, elles sont toutes propres. Et de chez toi, les gens, quand ils sortent avec quoi?
Ça dépend. Chacun repart avec quelque chose qui lui appartient.
Dans Un divan à Tunis, Manel Labidi, vous avez choisi de libérer la parole de vos personnages tout en prenant le parti de la comédie. On l'entend un peu moins dans cet extrait, mais il y a des scènes extrêmement drôles dans tout le film et notamment l'arrivée de Freud dans ce quartier de Tunis. Que permet l'humour? Pourquoi ce parti pris-là?
Parce que j'avais le sentiment que c'est un parti pris qui manquait. Quand on décide de traiter de cette partie du monde arabe, du Maghreb, c'est un genre qui est rarement ou peu utilisé et qui pourtant permet de dire beaucoup de choses et permet, je dirais, de sortir de cette surpolitisation, on va dire, de cette zone. Et j'avais envie d'utiliser les outils du cinéma, de la fiction et de la comédie pour avant tout raconter des trajectoires personnelles, universelles, plutôt que de mettre en avant, on va dire, un discours ou un discours militant, politique, de manière frontale. Le politique, évidemment, il est là, il est en creux, il est en toile de fond dans cette histoire, mais je voulais avant tout donner mettre la lumière sur des personnages.
Est-ce qu'on peut rire de tout en ce moment en Tunisie?
Bah, je pense oui, c'est une culture qui est, et d'ailleurs ça aurait été que de trahir cette culture et ce pays que de ne pas utiliser l'humour. C'est un peuple qui a énormément de second degré. L'humour est imbriqué, on va dire, dans le drame. Je veux dire, il y a absolument rien qui se passe sans humour. Toutes les tragédies sont toujours, on va dire, teintées de cet humour doux amer qui caractérise vraiment cette culture. Et pour moi, utiliser la comédie là encore, c'était aussi rendre hommage à ce peuple qui ne se laisse jamais écraser par les larmes.
Beaucoup d'autodérision dans les dialogues de vos personnages, assez truculents, on le disait. Puis une comédie de gestes aussi, hein, c'est extrêmement parlé avec les mains dans ce film que vous avez réalisé, Un divan à Tunis, et qui sort en salle ce mercredi. À vos côtés, je le disais, Mariam Touzani, réalisatrice de Adam, une histoire d'amitié, de rencontre entre deux femmes, dans la Médina, cette fois de Casablanca au Maroc. Abla, interprétée par Loubna Azabal, est mère d'une fillette de 8 ans. Elle tient seule un commerce, pâtisserie, boulangerie, quand Samia, Nisrine et Radhi, à l'écran, débarquent dans leur vie. C'est un film, au contraire, très intimiste, que vous avez pensé comme tel, Mariam Touzani, très intérieur, avec beaucoup de silence au début, avant que la parole se libère.
Oui, absolument, comme vous dites, avant que la parole se libère, parce qu'il était essentiel pour moi de pouvoir explorer l'intériorité de ces deux femmes, de pouvoir raconter aussi cette société à travers l'impact qu'elle avait sur elle, mais pas forcément de rester à l'extérieur, de vivre cette société de l'extérieur. Je voulais vraiment voir comment elle impactait sur elle et comment ces deux femmes allaient évoluer, comment cette rencontre allait évoluer, comment elle allait les transformer et comment justement au fil des jours elles allaient pouvoir renaître à la vie quelque part, être confrontées à elles-mêmes et renaître à nouveau.
On va écouter un extrait de la bande-annonce. Un mot du choix des langues dans vos deux films. Adam, c'est en arabe du début jusqu'à la fin. Mm-hmm. Alors que vous avez choisi Manel Labidi dans Un divan à Tunis, un langage mixte, mélangé. On est entre l'arabe et le français en permanence.
Oui, c'était un vrai parti pris parce que en tant que binationale, enfin, j'ai grandi en France, je suis née en France de parents immigrés tunisiens. À la maison, les deux langues se sont toujours télescopées et en Tunisie, et c'est un pays évidemment francophone où le français côtoie l'arabe de manière assez naturelle. Et j'avais envie justement d'avoir ce mélange, ne serait-ce que pour la musique qui me rappelle ma maison, qui me rappelle le pays que je connais et que je décris dans ce film.
Mais ça dit à la fois quelque chose du vécu de vos personnages et notamment de votre psy qui, elle, a vécu en France, étudié en France et qui revient au pays avec ce double langage aussi, cette double langue et ce double bagage, tandis que vos personnages aussi, Mariam Touzani, ces deux femmes qui vont se rencontrer, elles ne sont jamais parties. L'une arrive de son village, elle cherche refuge dans l'anonymat de la banlieue d'une grande ville, tandis que celle qu'elle découvre là-bas, qu'elle rencontre, Abla, elle, n'est jamais partie. Hein.
Mm-hmm, absolument, Abla n'est jamais partie de sa médina, de Casablanca, en fait. Et donc, du coup, oui, c'est sûr qu'on parlera, parce que ça fait partie de qui sont ces femmes. Ces femmes ne sont pas... c'est-à-dire, le français n'est pas une langue avec laquelle qu'elles vont utiliser pour communiquer. Ce n'est pas des femmes forcément qui ont fait des études non plus. C'est vraiment des femmes du peuple que j'ai eu envie de raconter. C'est vraiment ces femmes qu'on voit rarement à l'écran. C'est des femmes qui, quelque part, n'existent pas justement aux yeux des autres parfois.
Et votre actrice dit que ça a été d'ailleurs un défi, hein, Loubna, hein, qui incarne Abla, pour elle de réapprendre cet arabe des quartiers, elle qui vit en Belgique, qui a toujours aussi mélangé ces langues-là, elle a dû en repasser par un apprentissage de l'arabe comme il se parle, avec cet accent, presque ce dialecte aussi. Hein.
Absolument, Loubna n'est pas née au Maroc, même si elle parle l'arabe parce qu'elle est d'origine marocaine, mais elle a dû se réapproprier la langue et ça c'était vraiment un travail très intéressant à faire avec elle, qu'on a fait beaucoup déjà en amont par téléphone parce qu'on parlait énormément et on parlait en arabe toutes les deux, et puis quand elle est venue s'installer au Maroc pour justement commencer à travailler sur son personnage, et là c'est passé par des rencontres pendant très longtemps avec des femmes de la Médina, justement pour se nourrir de leur réalité, les écouter vraiment, justement pour s'approprier cette langue, et puis un vrai travail avec un coach sur place pour travailler tous ces dialogues en arabe, et au final il y a eu quelque chose de très très beau aussi dans ce qu'elle ce que ça a produit en elle, cette réappropriation de la langue, réappropriation de ses racines aussi, je pense.
Pourquoi ces deux actrices, vous les avez découvertes où, Lubna Zaval, c'était dans Incendie pour vous?
Absolument, dans Incendie, je l'avais adorée dans Incendie. Et puis voilà, quand on s'est vu pour Adam, c'était juste une évidence, parce que Lubna vraiment avait toute cette vérité que je cherchais, cette puissance et cette fragilité que je cherchais dans le personnage de Abla.
Et pour vous, Golshif Tefarahani, qui est franco-iranienne en plus aujourd'hui, et que vous importez en Tunisie, ou exportez, je ne sais pas dans quel sens, elle a appris l'arabe pour le film?
Alors, elle avait déjà des notions. Mm-hmm. Et puis, bon, Golshifteh, elle a une oreille musicale absolument extraordinaire. Donc, c'est quelqu'un qui apprend très vite les langues, même de manière phonétique. Donc, on a pas mal travaillé aussi bien l'accent français que l'accent arabe. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant de voir la vitesse à laquelle elle reproduisait les sons. Donc, c'était assez intéressant. Mais c'est vrai que par rapport au choix de Golshifteh pour ce rôle, moi, je l'ai découverte, évidemment, dans plein de films, notamment les films d'Ashgar Faradi à propos d'Eli et le film de Louis Garrel dans lequel j'avais adoré sa prestation. Je cherchais vraiment une actrice qui puisse contrebalancer l'énergie voilà de tout mon casting tunisien. Je savais être vraiment très très particulier en termes, je dirais, de langage du corps, au niveau de, je dirais, du timbre de voix, de l'énergie, voilà. Je cherchais quelqu'un qui puisse exister dans le silence, dans l'écoute, et qui dégage comme ça cette cinégénie, ce charisme qui la caractérise. Et très vite, en fait, voilà, j'ai pensé à elle et je lui ai envoyé le projet, voilà.
Abla, l'héroïne de votre film, Mariam Touzani, est une veuve. Elle vit dans ce rez-de-chaussée de cet immeuble avec sa fille de 8 ans, avec qui elle a des relations assez froides, assez tendues, peu de tendresse. On sent que c'est une femme qui a tout verrouillé. Elle va devoir ouvrir sa porte, donc, ou elle va choisir d'ouvrir sa porte à cet inconnu. Enceinte, elle va aussi, du même coup, s'ouvrir à son tour. Hein. De quoi se protège-t-elle jusque-là?
Elle se protège quelque part, elle se protège de beaucoup de choses. Et c'est une femme qui est en fuite, tout comme Samia, justement. C'est la rencontre de deux femmes en fuite. Mais Abla se protège de sa douleur, de la douleur de sa perte, parce qu'elle n'a pas réussi à faire son deuil, elle n'a pas réussi à dépasser cette douleur-là, mais elle se protège aussi de sa société, parce que c'est une société qui n'accepte pas, qui n'admet pas qu'une femme puisse faire le choix de rester seule, qu'une femme choisisse derrière le veuvage, justement, de ne pas se marier à nouveau. Et elle fait ce choix-là, parce que c'est une femme qui est capable d'exister par elle-même, qui est capable de travailler, d'élever sa fille toute seule. Et donc, elle se protège de ça, elle se protège des hommes qui peuvent voir en elle aussi une proie facile, justement à partir du moment où il n'y a pas un homme à la maison qui voit en elle une femme de disponible. Et donc, elle se protège justement à double tour de cette société-là. Et après, elle se protège d'elle-même. Elle se protège d'elle-même parce qu'elle a peur justement de faire face à ses émotions. Elle a peur d'aller chercher toutes ces choses qui la blessent. Et donc, elle décide de les étouffer afin de pouvoir être forte et continuer à se battre. Mais en faisant ça, justement, elle se coupe d'elle-même et elle se coupe de cet enfant qui est la seule chose qui lui reste au monde. Et c'est aussi justement comment cette femme va renaître à la vie, comment elle va se redécouvrir femme, comment elle va redécouvrir sa féminité, mais aussi comment elle va redécouvrir sa maternité à travers la maternité de cette autre femme qui arrive chez elle à la maison. Donc c'est vraiment un réveil à la vie.
Et cette petite fille qu'elle a est vraiment, elle, une source de joie et de vie, hein, qui demande qu'à s'exprimer. Samia, qui va arriver chez elle, interprétée par Nisrine Eradi, se cache. Elle se cache à la fois de ses parents, du regard des voisins, du regard du quartier tout entier. Elle est enceinte d'un homme qui a promis de l'épouser avant de l'abandonner. Elle est désormais considérée comme une paria. Elle sait qu'elle doit partir et on l'évoque, elle va jusqu'à Casablanca pour se cacher dans l'anonymat de la ville. Et pourtant, elle est rattrapée par cette mauvaise réputation, par le regard des autres. Hein. À un moment, elle va faire cuire le pain au four collectif. Samia se voit tendre un tabouret pour s'asseoir et une femme lui dit, c'est quand même... pourquoi elle a le droit à un tabouret, pas moi, alors que j'attends depuis une heure? C'est facile d'aller te faire engrosser dans la rue aujourd'hui et qu'on te fasse des gentillesses. Aujourd'hui, c'est des mots qu'on pourrait encore entendre dans un quartier populaire de Casablanca.
Ah, mais bien sûr, c'est des mots qu'on entend complètement aujourd'hui. Ça n'a pas changé du tout. La pression sociale, l'exclusion que vivent ces femmes-là est terrible. Ces femmes et ces enfants, parce que être cet enfant aussi qui naît sans père est vraiment un des plus lourds fardeaux à porter. Donc ces femmes souffrent terriblement de ça. Elles sont rejetées, elles sont mises au banc de la société, traitées comme des parias. Justement, vous parlez de cette scène qui est une des seules scènes vraiment où on est confronté à l'extérieur, et c'est encore une fois parce que j'avais pas envie on est confronté à l'extérieur de différentes façons dans le film, mais là c'est d'une manière assez frontale, parce que justement on voit vraiment le regard des gens, on entend vraiment ce que les gens disent. Après, moi, la pression que j'avais envie de raconter était aussi une pression sur laquelle on ne paie pas forcément de mots. J'avais envie qu'on ressente cette pression à travers les personnages, qu'on ressente cet extérieur, qu'on comprenne à quel point la vie de ces deux femmes était conditionnée parce que cette société leur imposait, parce que cette société leur volait aussi. Parce que d'un côté, on a une femme à qui on vole la vie de l'enfant qu'elle porte, de l'autre côté, on a une femme à laquelle on a volé la mort aussi. Donc j'avais vraiment envie qu'on puisse vivre ça. De cette manière-là.
Oui, parce que Samia, elle, se cache effectivement de ses parents. Elle, et c'est tout le dilemme du film, va devoir choisir entre garder cet enfant et faire de lui aussi un être à part dans la société, un bâtard, comme elle le dit, ou de donner cet enfant dès sa naissance, sans prendre le temps de s'y attacher, cet enfant du péché, comme elle le raconte. Pourquoi lui faire payer pour une erreur qu'il n'a pas commise, lui, ce serait injuste, c'est mon erreur à moi. Et Abla, de son côté, elle doit aussi accepter qu'il n'y a pas de place pour les femmes dans le deuil de ce mari qu'elle a pu perdre. Votre héroïne dans le divan de Tunis, Manel Labidi, Selma, elle doit aussi affronter le regard des autres, hein, qui est ce médecin qui propose aux hommes et aux femmes du quartier de s'allonger sur son divan. On l'évoquait, cette situation a ouvert quand même la porte à beaucoup de quiproquos au début du film. Mais derrière ça, ce que vous racontez, c'est la perception, les préjugés qui peuvent peser sur cette femme libre qui revient au pays. Une femme perçue au début comme aux mœurs dissolues ou une sorcière, elle ne peut pas être autre chose. C'est une femme cow-boy que vous avez imaginée.
Oui. Bah, c'est vrai que j'avais envie de mettre en scène un personnage féminin dont les caractéristiques s'apparentent souvent à ce qu'on voit chez les hommes. Et effectivement, elle est dans son apparence, elle est assez masculine. Elle est pas du tout, on va dire, sexualisée, hypersexualisée. Elle porte pas de maquillage. Elle fait le choix assumé d'être seule, de vivre seule, de ne pas se marier. Elle fume dans la rue en public, ce qui est un acte extrêmement politique, on va dire, dans ce genre de pays. Et c'est vrai que de par ses choix, elle transgresse, alors que Paris, elle est tout simplement une fille banale, voire chiante, on pourrait même dire. À Tunis, elle devient tout d'un coup sulfureuse, scandaleuse, parce que elle ne rentre pas dans le cadre du mariage, des enfants, du brushing, du maquillage, de la surféminisation, on va dire, qu'imposent, on va dire, certaines injonctions aujourd'hui aux femmes. C'était très important pour moi d'aller dans cette direction, sans pour autant qu'elle soit dans une provocation gratuite. Elle impose, on va dire, elle dégage cette liberté de par ses choix, et ses choix sont finalement très très simples.
France Culture, il est midi 20.
France Culture, la grande table. Olivia Jesbert.
Avec nos deux invités, les réalisatrices Manel Labidi et Mariam Touzani, jusqu'à midi et demi, deux films en salle, l'un ce mercredi, l'autre mercredi prochain. Et comme je me suis un peu emmêlé les pinceaux, je vais essayer de remettre les pendules à l'heure. Adam sortira ce mercredi, le 5 février, et votre film, Manel Labidi, un divan à Tunis, mercredi prochain, le 12, sur nos écrans, ici en France. L'oncle, dans votre film, parle à un moment à Selma et lui dit « Pendant la Révolution, on a créé un groupe pour protéger le quartier. quitter, j'ai peur, je donnerai tout pour partir d'ici et assurer un avenir à mes filles. Ici, tout est désert, noir, obscur, c'est une poudrière, une étincelle. On disait beaucoup d'humour dans ce film et en même temps des vérités qui se disent aussi. C'est un divan à Tunis, le titre de ce film, il aurait tout aussi bien pu s'appeler La Tunisie sur le divan, allongé. Qu'est-ce que cette société a à nous dire aujourd'hui? Est-ce que c'est surtout pour vous une sorte de blues post-révolution?
Oui, je dirais que la révolution a amené tellement d'espoir. Elle était inattendue, brutale, et quand c'est arrivé, elle est arrivée avec un lot de promesses qui n'ont malheureusement pas été tenues. Et c'est vrai que ce qui s'en est suivi était assez compliqué dans le sens où l'islamisme est arrivé, l'islamisme politique est arrivé au pouvoir, on a eu des actes terroristes, la crise économique sévit toujours, parce qu'évidemment le tourisme qui est la seule, on va dire, ressource économique du pays s'est complètement effondré. Donc après les quelques lueurs d'espoir, le désespoir est arrivé, et c'est vrai que ce personnage là est dans une espèce de dilemme. Il aime son pays, mais comme beaucoup, ils sont dans une idée de survie et d'assurer un avenir pour leurs enfants, et donc beaucoup voient le retour de cette jeune femme dans ce pays comme extrêmement provoquant. Tout le monde essaye de partir, tout le monde essaye de rejoindre l'Europe et l'Occident et tout ce qu'il promet. Et elle arrive et fait le chemin inverse. Et c'est cette confrontation entre ces deux trajectoires, de celle qui revient pour en quête de quelque chose de plus intime, et ceux qui essayent de partir pour une quête, on va dire, plus économique, plus matérielle. Et c'est ces deux quêtes que j'avais envie de confronter.
Aller tourner en Tunisie, pour vous, Manel Labidi, c'était un peu votre chemin inverse à vous?
Ouais, je crois. Enfin, je l'ai compris plus tard, mais ça c'est toujours comme ça, j'imagine. Oui, il y a quelque chose, qui relevait d'une forme de nécessité pour moi d'aller tourner dans ce pays, qui a rythmé ma vie, alors même que j'ai grandi et que je suis née en France, dans lequel je passais tous mes étés. Il y a quelque chose pour moi de l'ordre de la réparation, je pense, d'aller là-bas, de tourner mon film là-bas, d'engager une équipe tunisienne, de faire en sorte que cette petite économie que j'ai créée paye des gens, alors même que mes parents sont partis parce qu'il n'y avait pas de perspective. Il y a quelque part une forme de réparation que j'ai menée avec ce film, certainement.
Il y a une forme de renouveau du cinéma au Maghreb aujourd'hui, à la fois en Tunisie mais aussi au Maroc, avec des films qui font parler d'eux, font parler de la société, font parler des hommes et des femmes qui construisent aussi et pensent ces pays aujourd'hui. On pourrait citer au passage Nabil Ayouch, le réalisateur franco-marocain de Much Loved et de Razia, que vous avez co-scénarisé ensemble, Mariam Touzani, et qu'on retrouve sur votre film. Cette fois, c'est vous qui êtes derrière la caméra. Adam, on écoute Nabil Ayouch.
Les médias ont beaucoup plus de liberté aujourd'hui qu'il y a 10-15 ans. Maintenant, depuis quelques années, on assiste à cette montée d'une forme de conservatisme et de radicalisation qui m'inquiète, qui a envie de rendre vigilant aussi la plupart des progressistes, et à l'émergence vraiment d'une force qui pousse au recul, qui pousse à être rétrograde. On est inquiet, et je vous dis, après, tout est dans notre capacité à nous mobiliser pour faire face à ça, parce que c'est pas la première fois dans une société qu'on a deux schémas qui s'affrontent. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on va répondre ? Déjà en continuant à faire des films, en continuant à se battre pour exprimer nos idées, et puis pour la défense des droits fondamentaux. Il y a une société civile au Maroc qui est extrêmement vivante, vivace, qui peut-être s'est un peu assoupie ces dernières années, mais je peux vous dire qu'avec ce qui se passe ces derniers temps, on est bien réveillé là maintenant.
Bien réveillé. Il y a un geste artistique, un désir de film pour vous aussi, Mariam Touzani. On le sent à travers Adam. Mais est-ce que c'est aussi pour vous un acte politique aujourd'hui de réaliser, de tourner un film au Maroc?
Bien sûr que c'est un acte politique. Et c'est un acte politique parce que ce que je souhaitais avant tout, c'était de raconter cette histoire, mais qu'à travers cette histoire, on puisse soulever des questions que j'estime essentielles. Des questions sur la place de la femme, sur les libertés individuelles, sur justement Toutes ces choses, en fait, qui relèvent du tabou et desquelles on ne parle pas d'habitude, desquelles on préfère ne pas parler. La situation des mères célibataires aussi, évidemment, l'avortement, la liberté de disposer de son corps. Et justement, ce que je ressens aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai... une vraie énergie, il y a quelque chose qui s'empare de la société, où il y a toute une jeunesse qui s'est appropriée ces luttes-là aussi, des luttes qui ont été menées depuis des décennies à travers des associations féminines, mais qui aujourd'hui, à travers cette nouvelle génération qui a pris le relais quelque part et qui n'a plus envie de se laisser faire, qui n'a plus envie de se taire, surtout des femmes qui sont arrivent maintenant à vraiment défendre leur point de vue, à le faire publiquement, à vouloir, c'est-à-dire affirmer des choses. Là où avant, c'était des luttes qui étaient tacites, c'était des luttes qui étaient tapies.
Ce qu'on a vu encore récemment avec le cas de la journaliste Hajar Raissouni, celui de l'avortement au Maroc, cette journaliste de 28 ans qui a été condamnée à la mi-octobre à de la prison pour avortement illégal et hors mariage, sexe hors mariage, qui a finalement été graciée par le roi. Des sociétés, dans les deux cas, en Tunisie comme au Maroc, et on le voit à travers vos films où il est important de préserver les apparences. Ainsi, de l'oncle de Selma qui s'applique dans un divan à Tunis à garder le secret sur son alcoolisme, Olfa et son mariage arrangé, Raouf le boulanger qui se travestit loin des regards, et puis dans Adam, votre film, Mariam Touzani, cette grossesse hors mariage et qui risquerait de discréditer la famille. Il y a autre chose quand même qui transparaît, et j'aimerais qu'on termine là-dessus, c'est aussi d'autres valeurs au cœur de vos films, celle de l'écoute et celle de l'entraide. Il y a une conception quand même très méditerranéenne des rapports humains que vous mettez et que vous avez souhaité mettre en avant. C'est aussi de là que vient le salut, Manel Labidi, de cette entraide, de cette écoute que chacun peut s'apporter.
Oui, c'est vrai que ils n'ont pas attendu l'arrivée de cette psychanalyste pour parler et s'écouter. C'est-à-dire que ce qui me fascine dans ces sociétés qui sont... marqué encore voilà par des tabous, par des interdits, par le poids du groupe et de la famille, des traditions, c'est que les individus arrivent quand même à se créer des chemins de liberté à travers des stratégies qui peuvent parfois au premier abord peuvent paraître lâches ou hypocrites, mais qui sont en fait des stratégies de survie. Et ces stratégies de survie, elles ne peuvent marcher que justement avec l'entraide, avec aussi une forme de déni organisé. Et c'est ça qui fait que voilà, on n'a pas tout un pays qui est arrêté pour mœurs légères. Je pense que ça passe aussi par là.
Mariam Touzani.
Oui, moi je voudrais dire aussi que ça passe par la sororité. Justement, Adam est un film qui met en avant des luttes féminines et qui met en avant le pouvoir justement de cette solidarité féminine. Et je pense que dans des pays comme les nôtres, ce qui peut vraiment faire avancer les choses, ce qui peut faire évoluer les mentalités, changer les lois, c'est aussi cette entraide entre femmes. Et ça vient à partir du moment où on est conscient justement de notre puissance ensemble. Et pour ça, on doit être consciente aussi des luttes qu'on mène chacune en silence, chacune dans son coin. Donc pour moi, il s'agit vraiment de ça aussi, de prendre conscience de ça afin de pouvoir prendre notre destin en main.
Voilà, pour retrouver cette liberté qu'on nous refuse ou qu'on leur refuse. Merci beaucoup à vous, Manel Labidi. Un divan à Tunis sort en salle dans 10 jours. Merci à vous, Mariam Touzani. Votre film Adam sort ce mercredi en salle avec France Culture. Merci d'être venues nous en parler toutes les deux aujourd'hui.
Merci.